Bienvenue dans Archi Différemment, une série de podcasts qui part à la rencontre de parcours singuliers d'architectes et explore le lien entre formation universitaire et pratiques actuelles des métiers. Je suis Clotilde Béroux et aujourd'hui je reçois Anne-Charlotte Vilmus. Bonne écoute.
Bonjour.
Salut Clotilde.
Anne-Charlotte, pour te présenter très rapidement, tu as fait tes études en Belgique d'architecture. Tu es diplômée de la réputée université de La Cambre-Horta à Bruxelles. Tu as aussi un CAP de menuiserie.
Je ne l'ai pas tout à fait passé, mais ouais, je l'ai préparé en tout cas. Ouais. C'est mon diplôme préféré.
C'est ton diplôme préféré, voilà. Et tu as la spécificité depuis une dizaine d'années où tu pratiques en tant qu'architecte, d'avoir une spécialité ou en tout cas un domaine d'intervention qui est l'espace public.
Oui.
Et donc l'espace public, je voulais juste revenir sur une petite définition de Thierry Paco, The Famous.
Ah oui.
Donc l'espace public est un singulier dont le pluriel, les espaces publics, ne lui correspond pas. Au singulier, l'espace public est le concept défini par Jürgen Habermas comme le lieu symbolique où se forme l'opinion publique, issue du débat politique et l'usage public de la raison. Au pluriel, les espaces publics désignent les lieux physiques, quel que soit leur statut juridique public ou privé, dans lequel le public peut circuler ou stationner. Et plus si affinité, donc on peut préciser, puisqu'on ne stationne pas, on circule, on fait plein de choses. Est-ce que, d'où ça vient cette passion de l'espace public et comment tu es arrivée à ne travailler que là-dessus ?
Par un heureux hasard, je crois. Tout ce que j'ai fait, ça se passe de manière assez fluide. Je pense que ça a commencé à La Cambre, à l'école, où tu peux choisir en fait, les ateliers que tu fais. Et moi, j'avais choisi plusieurs années de suite un atelier qui s'appelle Art et Paysage, qui était dirigé par Patrice Nering, qui est un grand architecte de Bruxelles, où en fait, on avait carte blanche pour faire ce qu'on voulait. Il y avait un thème. Donc, une année, c'était la Meuse, une année, c'était les friches. Enfin, tu vois, tu choisissais un peu ce que tu voulais. Et comme Patrick disait, tu te démerdes. On se voit à la fin de l'année. Et en fait, ça a commencé par là, en fait, peut-être par. Timidité ou je ne sais pas de s'aborder, aller direct sur les bâtiments, mais en tout cas l'espace public, le commun, les usages, les besoins, je pense que c'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Et après, quand j'ai commencé à travailler, pareil, hein, tu sors de l'école d'archi, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, et puis il y a un pote qui te dit « Ah là, il y a un plan », et donc tu y vas, et j'ai débarqué chez Art Engineering, qui est une agence qui était à Rotterdam avant, qui venait de revenir à Bruxelles. Et Stéphane Bendix, qui est spécialiste, qui est allemand, qui est spécialiste des pistes cyclables. Donc si jamais vous voulez faire une belle piste cyclable, regardez ce qu'ils font à Engineering. Genre, pour pas dire qu'à Marseille, ça craint, mais quand même. Et pareil, Aglaé De Gros, qui était une spécialiste de tout ce qui est méthodologie participative. Ouais. Et donc, ils m'ont embauché, ils m'ont dit, voilà, on a fait tout un travail de piétonnisation des boulevards du centre de Bruxelles. Tu as un mois pour créer un petit mobilier pour présenter les résultats de cette participation. Et il y aura le ministre qui soit là. Donc, pareil, démerde-toi. Et ben ouais, je l'ai fait. Et c'était génial, quoi. Et en fait, ouais, ça correspondait bien à la manière dont, justement, avec Patrice en arrêt paysage, on avait approché l'architecture et approché la manière de réfléchir à comment est-ce qu'on fait...
Amplifier l'espace plutôt qu'à le réduire.
Oui, c'est ça. Ou même, en fait, déjà de base, comme on n'avait pas de sujet, en fait, quand on était à l'école, tu devais définir ton programme. Et pour définir ton programme, il faut que tu commences par qu'est-ce qu'on va faire et pour qui et pourquoi et comment. Tu vois, et
donc à qui tu t'adresses.
Voilà, donc tu devais justement commencer à faire ta méthodologie, à faire une enquête, à faire un diagnostic et tout ça. Et donc, je sais pas, c'est passé sur l'espace public, quoi, tout de suite.
Ce qui m'amène du coup à la suite de ton parcours, parce qu'en fait, c'est assez formateur. Une fois que donc, tu passes dans cette agence, tu reviens sur Marseille.
Ouais.
Et tu enchaînes deux postes qui sont un pour le cabanon vertical, donc oui. qui est une structure qui a été montée par un architecte, Olivier Bedu, oui. qui est une vraie référence dans la région, en tout cas pour toutes ces questions-là, oui. Depuis de nombreuses années. Et aussi, et c'est là que je trouve très intéressant, c'est que tu fais ensuite le pas d'aller travailler pour l'agence d'urbanisme oui. Du pays d'Aix-en-Provence, Aix-Durance.
Oui, c'est ça.
Et toujours sur la question de la participation, toujours sur la question de... Donc, ouais. En fait, j'aimerais bien que tu nous... d'une part, que tu nous poses, du coup, comment on intervient quand on est à l'intérieur d'une structure et dans l'institution, puisqu'en fait, l'espace public, la spécificité, c'est que ce sont des gens qui le traversent, mais qu'il est géré et construit par l'institution. Donc, comment on arrive à mixer ça des deux côtés ?
Déjà, ce que j'ai envie de dire, comment je suis arrivée au cabanon, aussi un peu par un heureux hasard, comment je suis arrivée à Marseille, je pense, gros coup de cœur, parce qu'il faut parler de Marseille, je crois, quand même, parce que Marseille, la relation avec l'espace public, elle est énorme. C'est-à-dire, moi, à la base, je suis Lorraine, tu vois. T'arrives à Marseille, l'espace public, c'est
charnel.
Tu vois, un peu comme tu me l'as dit sur quand on parlait de Félix Piat, c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est puissant, quoi. L'espace public à Marseille, il est puissant. C'est fort. Et moi, je sais, par exemple, quand je retourne dans ma Lorraine natale, je me dis, waouh,
il ne se passe rien.
Ils sont où, les gens, en fait, tu vois. Et à Bruxelles, l'espace public est puissant aussi, mais à Marseille, c'est vraiment culturel, quoi. Tu vois, t'as tout qui se passe dans l'espace public, quoi. À tout le monde qui se rencontre, et je crois la fascination pour l'espace public, elle est là. Et après, j'arrive au cabanon, et puis pareil pour un entretien d'embauche. Et Olivier, il me dit tu vas connaître, je te préviens, tu vas connaître toutes les cités de Marseille, quoi. Je dis ok, cool. et en fait, pareil, quoi, fascination pour du coup. Tu vois, ça mélange un peu tout ce qu'on apprend un peu en archi quand t'es à l'école, les grands ensembles, comment ils vivent, après comment ces gens, après ils se l'approprient ce territoire, les différentes luttes aussi qui convergent, quoi. Et ce qui est chouette, c'est au cabanon, tu explores tout ça par le terrain, quoi.
Par le terrain. Et alors, du coup, c'est quoi ton rôle ? Et tu peux nous raconter peut-être un projet au cabanon. Et je veux bien aussi que tu nous parles de ce que tu as appelé dans un de tes entretiens, que j'expliquerai plus tard, le maillage vert et le maillage jeu, qui, je crois, vient de Belgique.
Ça vient de Bruxelles, ouais. Pareil, Olivier, il m'avait un peu fait comme ça. Il faut que tu remplaces quelqu'un qui va partir. Tu as 2 mois pour finir un projet. Et puis, mon premier jour au cabanon, je suis arrivée, ils étaient tous partis à la Biennale de Venise, tu sais. Donc, j'étais toute seule au bureau avec l'administratrice. Et bien, c'était rigolo, quoi. Du coup, c'était un peu pareil qu'aux études où... Enfin, j'aime bien ces profs qui te mettent... qui te font sortir de ta zone de confort, tu vois, où tu dois prendre tes responsabilités, tu dois prendre tes décisions, tu sais pas, au final, peut-être tu vas faire un truc et tu vas te faire virer, ou peut-être, en fait, ça va vachement bien marcher. Et en fait, t'inventes tes propres méthodologies et tu composes avec ce qui tu es, avec ta sensibilité, avec ton background, quoi, tu vois, ce qui t'intéresse. Et ça, en ça, je trouve que c'est fort au cabanon, parce qu'Olivier, plus le temps a passé, plus vraiment il a lâché sur ça, enfin, tu vois, il a accepté ça.
Sachant que vous travaillez dans le cabanon, enfin, il travaille dans le cabanon sur ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, qui est donc la préfiguration des usages, et c'est un processus d'aménagement expérimental qui va intervenir avant la réalisation du projet.
C'est ça.
Donc c'est évolutif, réversible et démontable. Ou alors sur l'urbanisme participatif, avec des constructions de dispositifs à l'échelle humaine, avec les acteurs qui participent, comme les habitants, les associations de quartier, les comités de suivi. Et il y a aussi l'urbanisme tactique.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est, l'urbanisme tactique ?
En fait, c'est des stratégies, tu vois, on réfléchit. Ça, Aglaé aussi, de gros, à Arsenuring, c'est une pro de ça. Elle a fait plein de livres là-dessus. C'est en fait comment on va réfléchir l'espace public avec des stratégies, c'est-à-dire... toujours avec des diagnostics, toujours avec étudier la ville, comment elle est faite, comment elle fonctionne, où sont les réseaux, tu vois, les nœuds de mobilité, où sont les écoles, où sont les points de rencontre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, en fait, de l'urbanisme tactique, participatif, etc. C'est d'expérimenter l'espace et dans l'idée qui fonctionne et d'identifier les zones qui ne fonctionnent pas. D'adopter une stratégie en se disant, par exemple, je te parle d'un projet comme ça, celui qu'on avait fait pour Manifesta, où je me souviens, un jour, la Biennale d'Art Manifesta, il nous appelle. Pour
Manifesta, c'était il y a quelques années, c'est un projet d'art contemporain dans Marseille.
Hein. C'est ça, et ouais. Ils avaient investi un local sur la Canebière, croisement Cours Belzunce, Cours Saint-Louis, ouais. Et ils avaient envie qu'ils nous appellent pour qu'on fasse un mobilier qui fasse appel un peu, tu vois, sur cette mm-hmm. Canebière où finalement tu as toutes les façades et voilà, qu'il y a un petit élément urbain qui fasse un peu signalétique. Et puis avec Olivier, on commence à faire des ateliers. Alors d'habitude, c'était plutôt avec les habitants, mais là, c'est les passants, parce que sur la Canebière, ça a plus de passants que de gens qui habitent vraiment, mais on avait quand même eu des gens des Tours La Bourdette, par exemple. Mmh. On identifie, suite à ces ateliers de concertation, deux lieux. Donc, le lieu devant le bâtiment Manifesta et le coin en face où il y avait André
à l'époque.
Voilà, il y avait le magasin de chaussures là. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes, un peu des vieux Shibani qui sont là. Donc, on se dit, et s'ils sont là, c'est qu'il y a un usage qui fonctionne. Et donc, on va révéler l'usage. Donc, c'est-à-dire, on va proposer un mobilier pour pouvoir permettre à ces hommes de s'installer, pouvoir vraiment occuper l'espace public, mais mieux, de manière plus confortable qu'accoudé sur une barrière en essayant de ne pas se faire choper par le tram. Et donc, on se dit, on va faire le miroir côté bâtiment Manifesta. Et puis, il y avait cette petite rue qui s'appelle, je crois, rue des Ricolettes, quelque chose comme ça.
Ricolet, je crois.
Juste derrière, tu vois, juste la parallèle. Et y a beaucoup de gens, par exemple, dans l'enquête, qui nous disent, ouais, c'est un coin pipi, tu vois. Mais en même temps, nous, on se dit, en tant qu'archi, la rue, elle est piétonne. Donc, elle est sécurisée. Elle est à l'ombre. À Marseille, la moitié de l'année, on cherche l'ombre.
C'est agréable.
On cherche à ne pas être dans un couloir de vent, parce que la Canebière, c'est les jours de Mistral, c'est un couloir de vent. Et on se dit, dans l'enquête aussi, dans le diagnostic participatif, il y a beaucoup de parents, pour ne pas dire maman, qui nous disent, par exemple, moi, j'habite dans le panier, je vais faire mes courses à Noailles, parce que c'est sur le chemin pour aller à Noailles. Il n'y a aucun endroit de pause dans l'espace public. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est souvent demandé, tu vois, un endroit pour s'arrêter. T'es avec ton caddie, t'es avec ta poussette, t'es avec tes courses. À un moment donné, t'as envie de t'arrêter. Et sur le cours Belzunce, c'est gangréné par les terrasses que tu dois payer, quoi, pour pouvoir t'asseoir dans l'espace public. Et on se dit, la rue des Ricolets, ça pourrait être chouette de faire, de mettre un mobilier pour pouvoir s'asseoir, pour que les enfants puissent un peu jouer, pour qu'on amène un peu de fraîcheur avec des plantes, etc. Et justement, la tactique, c'est de se dire, si on met un mobilier et que ce mobilier, il vit, justement, il n'y aura plus de mauvais usages, entre guillemets, tu vois. Mmh. Les gens ne viendront plus faire pipi là, parce que il y a de la vie. Donc, tu vois, en général, quand tu vas faire pipi, c'est parce que c'est un coin caché,
Ouais.
Voilà.
Et donc, ce mobilier, entre-temps, j'ai regardé, c'était en 2020, Manifesta. Ouais. Et ce mobilier, il existe encore. Et donc, c'est une grande structure assez cubique jaune.
Ouais, c'est ça. C'est une structure métallique jaune, un quadrillage, une grille, quoi, des pots de fleurs. Parce que les gens nous avaient demandé des bancs, des assises. Et il a duré un petit moment. Je crois qu'il est encore là. Je crois qu'il y a une partie qui a été démontée parce que l'urbanisme transitoire, c'est pas fait pour rester.
C'est pas fait pour rester.
Contre, ça a permis de valider que ça fonctionne. En tout cas, les endroits où on les avait positionnés, ils fonctionnent. Alors, rue des Ricolets, finalement, on n'a pas eu le budget pour le faire. Mais tu vois, dans la méthodologie, dans la pensée urbanisme tactique, c'était ça la stratégie.
Et alors, tu me fais une excellente transition sur la question des outils de la participation. Et donc, je voulais que, justement, tu as fait un projet au Bon Secours,
ouais.
Sur le quartier. Donc à la croisée entre diagnostic entre marchands, une analyse des archives, une identification des lieux de rencontre.
Ah, la carte, tu veux dire ?
Ouais, je vois, c'est cette carte-là. Et cette carte, il y a aussi cette carte sensible où en fait, vous allez repérer de ce que j'ai vu les endroits qui ne sont pas bien. Donc il y a beaucoup de notions de confort. Ouais. Est-ce que c'est ensoleillé ? Est-ce que c'est sombre ? Ouais. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'on s'y sent bien ? Est-ce que ça ne sent pas bien ?
Ouais.
Et comment tu intègres, toi, en tant qu'architecte, justement, dans ces outils de participation ? Parce qu'on n'est pas sociologue et on se retrouve en tant qu'architecte toujours un peu à la croisée de comment je me positionne. Et donc, comment toi, tu te positionnes ? Comment tu te réappropries des outils d'enquête éventuellement pour en faire du dessin?
Pour parler des outils, avant de reparler peut-être de la carte, qui sera un bon sujet aussi pour parler de l'audio après. Les outils, comme tu dis, c'est ce qui est chouette, ce qui était chouette au Cabanon, c'est que tu as dans l'équipe, il n'y avait pas que des archis. Il y avait des designers, à un moment donné, il y avait des anthropologues, il y avait des sociologues. Enfin, dans l'équipe, donc il y avait une partie d'équipe conception et une partie d'équipe construction. Dans l'équipe conception, à un moment donné, j'étais la seule archi, je crois. Et tant mieux. justement, c'est la croisée de toutes ces approches qui fait que c'était intéressant. Et donc, ça passait toujours par première démarche, la carte sensible. La carte sensible, donc un fond de carte tout simple, cadastre, avec effectivement une petite légende qu'on avait fabriquée, mais avec des données sensibles. Donc, c'est-à-dire comment je me sens, comment je perçois l'espace, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est sale, est-ce que c'est... est-ce que c'est ensoleillé, effectivement, est-ce que c'est au vent, est-ce que... raconter un peu les histoires aussi qui s'y passent.
Le narratif.
Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, à Frévalon, là, il y a une voiture de jeunes qui vient squatter, ils fument la chicha toute la nuit, ça dérange. Si on leur faisait un banc et puis qu'ils pouvaient se mettre, ils éviteraient de mettre une voiture. Et puis, en fait, peut-être que pendant d'autres temps de la journée, il y aurait d'autres usages. Les parents, quand ils sortent de l'école, ils viennent donner un goûter. Et puis, les hommes, quand ils partent à la mosquée, ils vont aussi passer pour se dire bonjour. Et puis, en fait, ça fonctionne du coup super bien. Et du coup, l'espace, il devient plus collectif et pas juste pour une partie de la population, quoi.
Donc, cette carte sensible, elle s'augmente par une carte des délicatesses et des bienveillances les uns envers les autres.
Ouais, en tout cas, on fait un recensement des envies, des besoins de tout le monde. Et on essaye de composer... Et de tester. Et après, donc, tu as la carte. Et après, il y a l'esquisse aussi. L'esquisse martyr. Olivier, il appelle ça comme ça. Après, tu peux appeler ça comme tu veux. Mais... Donc, on fait un premier jet. Et puis après, on vient le présenter. Et puis les gens nous disent, ah ouais, mais ça, c'est bien. Ouais, non, mais attends, parce que là, c'est dangereux. Ouais, mais attends. Et on refait une fois ou deux. Et puis après, on fait le chantier aussi ensemble. Et ça aussi, ça, c'est hyper important de construire avec les gens, avec les jeunes souvent. Qui ont une fierté aussi à... Tu vois, t'as participé à un truc dans ton quartier, en bas de chez toi. Tu l'as fait avec tes mains, et après, on fait des repas, on mange tous ensemble, et c'est top, quoi.
Et justement, par rapport à... Tu parles de différents publics.
Ouais.
T'as un projet qui est particulier sur... qui s'appelle À nous la rue, donc en partenariat avec Euphonia et Radio Grenouille. Alors c'est un quartier qui c'est Saint-Mauron, je crois.
Ouais.
Donc c'est un Saint-Mauron pour tu connais mon amour de cette chose-là. C'est un incroyable, donc pour les auditeurs, c'est un incroyable collage urbain comme rarement il en existe à Marseille, avec littéralement une superposition entre le boulevard national qui était une nationale, la voie ferrée et puis ensuite l'autoroute à presque 30 mètres au-dessus, et tout au long de ce bazar urbain, une très jolie église avec des petits immeubles de côté, puis quelques mètres plus loin, la grande cité de Félix Piat. Et donc comment, en fait, ce que je trouve merveilleux dans ce projet-là, et dans les intentions qui y sont amenées, c'est que travailler avec les enfants, pour toi, en tout cas tel que tu l'exprimes, c'est leur donner un support d'expression pour qu'ils expriment, qu'ils vivent comment ils vivent leur quartier, et surtout leur offrir le droit à la ville. Ouais. Comment tu travailles avec les enfants ?
En fait, c'est parti de la lecture. Enfin, plein de choses, mais du coup, l'espace public, que chacun trouve sa place dans l'espace public, mais c'est venu d'un livre qui s'appelle La ville des enfants, qui est écrit par Francesco Tonucci, que justement j'avais passé à Nelly un jour, Nelly qui bosse à Radio Grenouille.
Nelly Fleischer.
Voilà. Et du coup, en fait, Francesco Tonucci, qui n'est pas archi, justement, il a écrit toute une... Dans son livre, il est vraiment super parce qu'il y a une partie théorie et une partie pratique. Et dans la partie pratique, il dit, il faut faire une rue pour les enfants. Il faut faire la rue du mercredi. Il faut que les enfants puissent aller à l'école à pied. Et puis, il part d'un postulat. Il dit, si la ville est mieux pour les enfants, elle est mieux pour tout le monde.
Ouais.
C'est vrai, en fait. Parce que par qui est fait la ville, par qui et pour qui? Ça aussi, quand tu passes à l'agence d'urbanisme, tu comprends un peu. tu comprends un peu mieux.
Qui fait la ville, ce ne sont pas les enfants.
Qui fait la ville et pour qui surtout, c'est-à-dire plutôt pour des gens qui sont valides et qui travaillent et pas justement pour des mamans qui ont des chariots avec des caddies et des poussettes. Donc on essaye de faire un peu la ville plus agréable pour tout le monde et qu'elle ressemble plus aussi aux gens qui l'utilisent, je crois. Et justement, les enfants disparaissent de nos villes, c'est ce qu'il dit, Tonucci. Et on essaye de leur redonner de la place. Et en faisant ça, la ville, elle est mieux pour tout le monde. Elle est plus, calme, elle est plus apaisée, elle est plus verte.
Et
tu
concrètement,
vois,
du coup, sur cette rue aux enfants
Concrètement, on la prend, la rue. On la ferme.
Ouais.
Et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans cette rue, et puis on y va, on fait des plans, on fait des maquettes, on fait des cartes, on lit des cartes, on regarde des références, et puis un beau jour de juin on fait une demande d'autorisation pour fermer la rue et on préfigure parce que on n'a pas forcément les sous pour pouvoir le faire, mais en tout cas on prend du tape et on vient dessiner un jeu, une piscine. La piscine, on l'avait mis pour de vrai. Petite piscine, mais voilà, on met une piscine, on expose nos maquettes, on expose les plans qu'on a faits. Et ce projet, il dure. Et la mairie, là même, avait même du coup inventorié la rue Gaillard dans les potentielles rues aux enfants, parce que c'est une préoccupation politique actuelle, quoi, en fait, de l'éparvis d'école et la place qu'on donne aux enfants en ville, ça fait partie des démarches politiques du moment.
Et ça, donc, c'est donner une force narrative, parce que, en fait, ce qui est très intéressant dans ce travail-là, ça va être effectivement de mêler l'histoire, d'aller chercher l'histoire, tenter d'élucider, en fait, ce présent qui est hérité et qui amène à cette histoire qui va créer de la valeur à la rue.
Oui.
Et pour ça, donc, toi, tu as créé aussi ton agence qui s'appelle Studio Wow,
ouais,
là-dessus. Et c'est là où je voudrais arriver, c'est sur le podcast, ouais, que tu crées. Donc, tu crées un podcast qui s'appelle Esquive,
ouais,
qui est mensuel, qui est sur Radio Grenouille. L'art. Radio Marseillaise, 88.8. Et c'est donc, tu en es à ton 30e épisode. Et c'est, donc, c'est une série d'émissions qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Donc, ouais, là, je cite la punchline.
Ouais.
Pour moi, le podcast, c'est la narration par excellence. Comment c'est lié? Comment t'en es arrivé là?
Et en fait, justement, j'avais fait ce projet de cartographie. On venait d'arriver à l'usine Pillard avec le cabanon, pour la faire simple. Et puis, on arrive, on débarque, on ne connaît pas le quartier. Donc, moi, je me dis, en fait, j'ai envie qu'on fasse une carte du quartier, parce que là, je suis archi, et donc, je dessine, ce que je sais dessiner, c'est l'espace, quoi. Mmh. Donc, je dis, je vais faire une carte avec les habitants du quartier pour mieux le comprendre, pour mieux savoir où est-ce qu'on débarque. On arrive en plein confinement, donc tu ne peux plus trop voir les gens. Tu vois, tout se mélange, quoi. Je vais au centre social des Rosiers parce que il y a les enfants qui crèvent de faim aux Rosiers, donc il y a une prof qui fait un appel à l'aide, et donc du coup je fais des distribs alimentaires, et du coup je rencontre tous les profs, je rencontre tout le milieu associatif de Saint-Gabriel, et du coup il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein de choses à faire, et puis il y a toujours quelqu'un que j'aime beaucoup quand je fais des projets, je ne sais pas trop par où commencer, qui s'appelle Nicolas Mémin, du Bureau des Guides. Et pareil, qui a des archives de fou sur tout. et qu'il y a des films et on regarde leur esquisse et on essaye de tracer un fil rouge sur leur esquisse.
Qui est un film de René Ayo.
Ouais, mais qui raconte Saint-Gabriel, ouais. Qui est merveilleux aussi, quoi. Un peu comme quand toi tu parles de Félix Piat, ben lui il raconte Bon Secours avec ouais. Ses trois générations de famille. Et puis du coup, on fait cette carte. Et à un moment donné, je dois partir du cabanon parce que je vais à l'agence d'Urba. Et c'est moi qui ai travaillé là, sur la carte. Et je me dis, mais comment ils vont faire pour présenter cette carte, tu vois ? Il faut qu'on raconte l'histoire de cette carte, tu vois ? Parce qu'il n'y a pas que l'objet fini, il y a la démarche et tout ça.
C'est les archives aussi.
Ouais, voilà. Et là, du coup, je vais voir Mario de Radio Grenouille. Et entre-temps, je fais... l'été, je travaille sur... Je tente, tu vois, de me dire, ouais, je suis architecte, il faut que je gagne un concours, genre Europan. Il y avait Europan sur l'étang de Berre. Et donc, je passe l'été avec Nicolas Mémin. Dans ses archives sur l'étang de Berre. Et du coup, je commence à me dire, ouais, ce serait cool de parler de ça, parce que je rencontre un photographe qui a fait une super expo, et je me dis, tiens, ce serait super intéressant de parler de l'étang de Berre, ce serait super intéressant de parler de ci, ça, ça. Et puis, je vais voir Mario, je dis, ouais, je voudrais faire un podcast sur la carte, et puis j'ai aussi pensé à ça sur l'étang de Berre, et puis peut-être on pourrait demander aussi, parce que j'avais des copains à ce moment-là à Yes We Camp, on pourrait aussi peut-être parler de Coco Velten. Et puis, il me dit, écoute, t'as une...
C'est un lieu partagé qui vient de fermer, ouais. Qui va être ouvert.
Voilà, et il me dit, bah en fait, c'est pas un podcast, c'est une émission, et puis tu commences dans 15 jours. Et
fantastique.
Voilà. Voilà, tout simplement.
Et donc, ça a démarré, ça va faire 3-4 ans. Et ce que je trouve assez fantastique là-dedans, c'est pour moi, ça reste un travail d'architecte, dans le sens où, en fait, à mon avis, c'est une pratique extrêmement contemporaine par la pluralité des écritures architecturales. Et je vais faire un parallèle certainement scientifiquement extrêmement douteux. Mais il y a un essayiste américain, chercheur, qui s'appelle Henry Jenkins, qui a amené le concept d'approche transmédia. Et l'approche transmédia, c'est un processus dans lequel les éléments de fiction sont dispersés sur différentes plateformes, différents médias, de façon à créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée, où chaque média apporte sa propre contribution. Et je trouve que du coup, le podcast, la carte, les ateliers participatifs arrivent à diffuser de façon extrêmement pertinente ton approche de raconter la fiction et de narrative sur les quartiers sur lesquels tu travailles.
Ouais. Non, ouais.
Et à partir de là, comment tu comptes faire évoluer ton travail, toi ?
Ah ben, je me pose cette question là tous les jours, mais je pense en continuant de faire des projets. Tu vois là, une fois on avait fait du coup avec Nelly à nous la rue, on avait fait Radio Archi. Il y avait une philosophe aussi qui était là. L'année dernière, on a fait avec la photo. Une photo, archi, podcast, toujours, parce que voilà, je trouve, comme tu l'as dit, moi je suis convaincue que la carte et le podcast, ça va ensemble en fait, maintenant c'est une évidence. Là après, je suis passée sur le documentaire.
Oui, c'est vrai.
Je suis passée sur ça maintenant, c'est aussi un média qui m'intéresse, et je trouve qu'aussi le cinéma d'architecture est hyper intéressant. Dans Esquive, la dernière saison, il y a eu beaucoup d'archi.
Et je vous conseille le podcast avec Elodie de Grave.
Bah, Elodie, c'était ma prof.
Ah bah oui, sur la vie, sur son documentaire La vie en quitte.
La vie en quitte, il est top. Les insulaires, j'ai vu qu'il était projeté à l'IMVT, il est merveilleux. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux films d'archi que j'ai vu. Et mais c'est vrai, je trouve que tu vois, il y a une émotion, ils ont réussi à capter ça, c'est incroyable. Il y a un film sur Palladio d'un de mes amis aussi qui est génial.
Et toi, du coup, tu vas faire quoi ?
J'aimerais bien trouver des sous pour pouvoir faire aussi du cinéma d'architecture et filmer toute la beauté de ce que je vois dans les quartiers. Donc là, par exemple, je suis en train de monter un petit docu sur Félix Piat et sur justement À nous la rue, l'enquête. Donc ça, le film part de ça. Il y a un chantier, et puis d'un coup, à côté de l'école justement où je travaille depuis 2-3 ans avec les enfants, et puis d'un coup, on parle de faire la ville, À nous la rue, etc. Et puis d'un coup, il y a un chantier qui arrive, ça vient bousculer un peu ça, et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Et voilà, sur tous ces processus, comme tu dis, toutes ces manières de faire l'architecture, de partager l'espace commun, et toutes ces démarches, et tous ces gens qui, comme Olivier, comme Nelly, en fait, qui racontent l'espace public à leur manière. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Et peut-être que les... aussi, je pense aux étudiants.
Justement.
Tu vois, ça leur donne aussi un peu envie de faire autre chose. Enfin, tu vois, en fait, quand tu fais l'école d'archi, tu ne vas pas finir dans une agence.
Exactement. En fait, c'était ma dernière question pour conclure. Parce que je pense qu'il faut qu'on conclue. Ouais. C'était quel conseil te donnerais-tu rétrospectivement à toi, étudiante ?
Tout va bien. Tout se passait.
Fais confiance.
Ouais, tout va. Stéphane Herpin, il pourra te le dire. Tout va bien.
C'est le nom de son agence, effectivement.
Tu vois, genre... fais ce que tu as envie de faire et tout va bien aller, fais-toi confiance et
les opportunités arriveront.
Ouais, en fait, fais ce que tu aimes avec le cœur et ça va bien se passer et n'hésite pas à dire merde à ton patron et faire ton truc. Non mais c'est vrai, enfin à un moment donné bosser en agence c'est génial, je pense, tu apprends plein de trucs et à un moment donné, une fois que tu as appris plein de trucs, fais ton truc à toi.
Et je trouve, pour conclure, que ta pratique de l'espace des espaces publics, comme on avait dit, au sens des espaces publics pluriels, traversés, elle remène au sens noble de l'espace public, c'est-à-dire un débat politique ouvert où on fait évoluer les points de vue. Et je te remercie.
Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, à bientôt à l'IMVT.
Vous venez d'écouter un épisode en compagnie de Anne-Charlotte Vilmus. Merci pour votre écoute.